France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la marche des sciences, émission spéciale Science au cinéma.
Il n'y a aucun commentaire dans Microcosmos. Il y a tout simplement la révélation de ces êtres qui sont si proches et pourtant inaccessibles. Et ce que je trouve très très beau de la part des auteurs, et c'est sans doute ce qui m'a séduit au départ, ils sont entomologistes, ils sont biologistes, ils sont scientifiques. Il y a 30 ans d'observation sur ces insectes, ils ont écrit des tas d'ouvrages de vulgarisation avec des photos qui sont tout à fait extraordinaires, saisissantes, et que leur volonté de faire un film au bout de 30 ans, c'est pas d'apprendre aux autres. Mais c'est simplement de leur dire « Chut, regardez. »
Chut, regardez, disait Jacques Perrin, producteur du film Microcosmos, le peuple de l'herbe, 20 ans déjà, et oui, c'était le 16 novembre 1996, ces propos de Jacques Perrin, donc un film sans commentaire, un conte au cœur de la nature et de ses petits habitants, ceux qui, sous nos pieds, dans les herbes, déroulent la partition de la vie. À l'occasion du Festival de Cannes, retour sur l'histoire du film Microcosmos, présenté hors compétition sur la Croisette il y a 20 ans. Une œuvre qui a marqué un temps dans l'histoire du film naturaliste et qui rencontra un succès international immédiat. Microcosmos, l'aventure d'une œuvre qui fut non seulement une première en matière de représentation du monde microscopique, avec des acteurs au gabarit hors normes, mais aussi en matière de réalisation technique, avec des prouesses insoupçonnées qui ont nécessité recherche et inventivité. Du génie à hauteur d'herbe, c'est cette histoire aux multiples facettes que nous allons vous raconter en direct sur France Culture avec les deux réalisateurs du film, Claude Nurizzani et Marie Perrenou, réalisateurs, scénaristes et photographes et également auteurs de livres, notamment le dernier paru, Genesis, paru aux éditions de La Matinière, une première partie d'émission émaillée d'archives sonores grâce à Anaï Morales. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, on poursuivra notre thème « La science au cinéma » avec le Festival du film de chercheurs qui se déroulera du 31 mai au 5 juin prochain à Vendeuvre-les-Nancy, en Lorraine, pour sa 17e édition. Un événement qui donne à voir tous les deux ans une belle sélection de films en lien direct avec la recherche scientifique et avec les chercheurs. Découverte des pépites de l'année avec la secrétaire générale du festival, Jacqueline Ries, qui sera avec nous tout à l'heure en duplex depuis nos studios de Nancy. Mais tout d'abord, un coup de chapeau à un grand monsieur qui nous a quittés le 15 mai, l'astrophysicien André Braik, professeur à l'université Paris 7 et directeur de l'équipe Gamma Gravitation au commissariat à l'énergie atomique, co-découvreur des anneaux de Neptune. Un passionné, un amoureux des étoiles et des mots, passé maître dans l'art de la vulgarisation scientifique, il fut l'un des invités complices de la marche des sciences et nous lui avions consacré une émission spéciale Grand Portrait. C'était le 30 octobre 2014.
Moi, je rêverais d'un président de la République qui, comme programme électoral, d'ailleurs, si je me présente en 2022 ou en 2027, ça sera le suivant. Mon programme électoral reposerait sur trois priorités à l'exclusion de toutes les autres. Et ces trois priorités seraient la culture, la recherche et l'éducation. C'est ça notre futur, c'est ça la lutte contre l'obscurantisme, et c'est ça qui feront que nos enfants seront dans la bonne direction. Et en même temps, on pourrait faire un petit peu rêver la population en disant « on va progresser, allons-y tous, allons de l'avant ». Donc ça veut dire qu'on peut avoir un avenir merveilleux si on part dans cette direction. Et pas chez la crise, où on a les gens tristes, etc. Arrêtons avec ces homo tristus. Et d'ailleurs, ces homo tristus font le lit, font le miel des démagogues et des populistes. Et nous savons ce que donne la démagogie populiste. En 1933, on a vu ce que ça a donné. Donc, évitons de tomber dans ce gouffre.
Et oui, c'était André Braik, formidable passeur de savoir et semeur d'envie dans ce monde de la science. À retrouver, si vous le souhaitez, sur le site de France Culture, bien évidemment. Vous pouvez disposer de cette émission Grand Portrait. Un vrai acteur de la Terre et du cosmos. Donc, nous voulions avoir cette pensée pour lui, pour cet artiste de la science.
Thank you.
Et ce monde de la science et du cinéma, nous allons l'observer aujourd'hui dans la marge des sciences, revenir aux sources, aux racines, celles d'un film qui subjuga la Croisette il y a 20 ans déjà, Microcosmos. Bonjour Marie Perrenou.
Bonjour.
Bonjour Claude Nurizani.
Bonjour.
Alors vous êtes les deux réalisateurs de ce film qui a marqué son temps et qui continue à marquer les générations. Présenté, je disais, hors compétition à Cannes il y a 20 ans. Vous avez des souvenirs particuliers de ce moment-là ?
Ah oui, c'était effectivement un souvenir extraordinaire. Je me souviens de la projection dans la grande salle et de voir des fourmis de 30 mètres de large comme ça sur l'écran. Il y avait une projection qui était absolument sublime de qualité. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait eu un travail sur l'image et sur le son qui nous avait demandé beaucoup d'efforts à toute l'équipe et à nous-mêmes. Et là, l'ensemble des sons et l'image faisait qu'on était dans un grand spectacle et c'était un peu notre rêve qui devenait réalité parce que on s'était fait un petit peu le pari de transformer le microscopique, le minuscule, le négligeable en grand spectacle. Et là, c'est vrai que dans la salle du Festival de Cannes, il s'est passé une sorte de magie. Le public semblait bien réagir. C'est vrai qu'on a eu le sentiment, on disait, mais personne n'ira voir ce film, qui s'intéresse aux insectes? Enfin, on a toujours un petit peu peur de s'être trompé. Et puis nous, on avait fait que suivre notre passion. Mais comment savoir si cette passion est transmissible? Et à Cannes, il y a eu ce frisson dans l'auditoire qui nous a un peu rassurés. Je sais pas comment tu
Marie Perrenou, parce que en même temps, ce film, c'est un vrai conte et qui a trouvé son public parce que vous touchiez aussi là cette fibre et sans forcément donner, on va en parler, hein, des détails par un commentaire. Il n'y a pas de commentaire, mais on est mis à hauteur de ces insectes qui sont des acteurs formidables.
Oui, je pense que le fait que le film ait été bien accueilli, justement, ça dépend aussi de la manière dont on l'a construit. Et vous venez de prononcer le mot « conte ». Et c'est justement le mot que j'avais à la bouche pour peut-être trouver une explication. On a fait tout un travail dans ce sens-là. C'est-à-dire pas pour raconter strict, au sens strict du terme, la vie des animaux, mais de montrer plutôt des moments de vie sous forme d'un conte. Enfin, la musique y a beaucoup participé, bien sûr, la manière dont on éclaire aussi tous ces petits animaux, une ambiance particulière. Tout est vrai, mais enveloppé d'une certaine façon.
Alors, on va rentrer dans la conception de ce film dans un instant. Il faut juste, pour bien prendre la mesure un petit peu de l'enjeu, quand vous êtes lancé dans cette réalisation, et puis cette envie d'aboutir à un film, pour arriver à ce résultat, c'est que ce sont quand même des années de travail, des années alors d'observation, de passion, 2 ans d'écriture, 2 ans de préparation, 3 ans de tournage, 80 km de pellicule, avec des scènes qu'il ne fallait pas rater, parce que, par exemple, on découvre aussi que la ponte des libellules, c'est 5 jours par an. Donc il faut vraiment être là au bon moment. Et tout ça, donc peut-être partons d'abord sur votre envie première. Vous avez toujours eu cette attirance, et l'un et l'autre, par ce peuple de l'herbe, cette nature.
Oui, je crois qu'on a fait des études scientifiques au départ.
De biologie, c'est ça ?
De biologie, oui. Pas d'entomologie d'ailleurs spécifiquement, de biologie générale, biologie de la reproduction, etc. Et lorsqu'on a fini nos études, on s'est dit finalement, on a fui les laboratoires, nous étions faits pour y vivre, mais on a eu une sorte d'appel du grand large. Et donc nous avons essayé d'inventer une façon de vivre qui était de faire des articles. On a été journaliste à un moment, faire des photographies. Et puis assez vite, on s'est dit, c'est tellement sublime ce que nous voyons tous les jours dans l'herbe, il serait intéressant d'en faire une sorte de fresque, d'opéra. Et on ne voit guère que le cinéma pour rendre hommage au côté extraordinairement fantastique de ce que nous voyons. Mmh. En fait, si vous faites l'expérience, vous êtes debout dans une prairie, il ne se passe rien de spécial, vous avez les alouettes qui chantent, les pâquerettes au ras du sol, bon, quoi d'extraordinaire. Vous vous allongez, vous avez les yeux au ras du sol, parmi les herbes, et tout d'un coup, vous voyez une petite fourmi qui grimpe sur une herbe, l'herbe commence à s'incliner, vous dites donc, cet animal minuscule, il a donc un poids, qu'est-ce qu'il ressent lorsque cette herbe s'incline, etc. Et brusquement, vous avez l'expérience de rentrer dans un univers parallèle, une autre échelle. Ce que les enfants savent très bien faire d'ailleurs, et c'est en partie lié à nos souvenirs d'enfance aussi, cette expérience de microcosmos. On a voulu aussi rendre hommage à la capacité du spectateur à saisir le merveilleux. Donc le point de départ, c'est projetons le spectateur comme s'il était lui-même fourmi dans une planète inconnue qui est la Terre à l'échelle du centimètre. C'est-à-dire, on le voit très très vite, il suffit de changer d'échelle, on oublie le mètre qui est notre étalon, dans tous les sens du terme, et on va au centimètre et brusquement tout change. Les lois physiques, la lumière, on peut tomber de 100 fois sa hauteur, on arrive au sol sans dommage. Hein, si vous êtes fourmi, il n'y a pas de problème.
Pas les mêmes perceptions, pas les mêmes visions.
Vous voulez boire un peu d'eau, ben une goutte d'eau, c'est très difficile à percer. Vous avez comme une pellicule, une membrane de molécules autour. C'est les forces de tension superficielle. Donc toutes ces choses nous ont émerveillés par leur étrangeté. Et en fait, on s'est dit, c'est pas forcément nécessaire d'expliquer la tension superficielle, la vision des insectes, etc. Projetons le spectateur dans cet univers, un peu, non pas comme un voyage organisé, justement, ce qui aurait été le cas si on avait fait un long commentaire, mais comme une expédition aventureuse. On le projette sur une planète inconnue, et elle est d'autant plus surprenante que c'est notre propre planète. Donc ça remet en cause complètement notre façon d'être sur Terre, en fait.
Alors vous parliez de ce regard de l'enfance aussi, à Marie Pérennou et Claude
Nivezani. Oui, il y a le regard de l'enfance aussi.
Qu'on retrouve dans un de vos films, à La Clé des Champs, d'ailleurs.
Et si on a pu faire, et si on a pu faire ce film, c'est qu'on connaissait bien notre sujet, c'est-à-dire nos personnages insectes. Mais si on les a si bien connus, dans le fond, c'est pas tellement au cours de nos études, parce que les études, c'est quand même assez théorique, vous voyez. Mais c'est avant nos études, ou un petit peu en même temps, on a lu un livre d'un être extraordinaire qui est un maître pour nous, c'est Jean-Henri Fabre, ses souvenirs entomologiques. Et là, ça nous a transportés, mais raconter ça. C'était comme un livre policier, on a adoré. Et c'est grâce à lui qu'on a pris connaissance de la vie de ces êtres, et on a voulu aller les regarder et chercher dans quel endroit ils vivaient, parce que chacun a son petit coin.
Mais c'est vrai qu'il y a, il y a presque ses maîtres, finalement, dans des parcours.
C'était un modèle de vie. Lui, il a été instituteur, puis professeur. Après, il a pris la retraite à 50 ans, ou un petit peu plus, et il a vécu chez lui dans sa maison, en pleine Provence, et c'est là qu'il a fait toutes ses études. Et nous, on se retrouve avec une maison aussi en pleine campagne, où on a construit un studio de cinéma.
En Aveyron,
voilà. C'est un peu un modèle. Et l'autre modèle, parce que ces modèles, maintenant on a un certain âge, on peut dire qu'on a fait notre itinéraire, c'est Jean Rostand aussi, qui est l'homme qui a si bien raconté des histoires avec les animaux.
Eh bien, on va l'écouter si vous voulez. Oui. Allez, Jean Rostand et son amour de la nature, c'était dans l'émission Les Chemins du Jour, le 6 novembre 1954.
Cet amour de la nature n'est pas tout à fait cet amour poétique auquel vous faites allusion. Mon père, en effet, avait ce sentiment poétique de la nature. Il l'avait lu d'une façon très forte. Je me rappelle très bien, le soir, il allait souvent au bout du promontoire de son jardin. Il y avait un petit promontoire qui se donnait du côté de la vallée de la Nive. Et il allait très souvent regarder les couchers de soleil. Moi, jamais il ne m'est arrivé de regarder un coucher de soleil, n'est-ce pas, ni quand j'étais enfant, ni plus tard, n'est-ce pas. Je ne regarde pas un coucher de soleil, je ne regarde pas un beau ciel, un beau paysage. Tout ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, c'est quand je ne peux pas dire que j'ai le goût de la nature comme l'a un poète. J'ai un goût de la nature extrêmement fort, comment dire, dans ses détails. C'est-à-dire que j'ai un plaisir très profond et très, très particulier à regarder un insecte, à regarder un œil de crapaud, si vous voulez, n'est-ce pas, à regarder le détail structural d'un animal. Mais c'est un goût, comment dire, plutôt de l'objet, de l'être vivant, plus que de la nature.
Et oui, ce que nous dit là Jean Rostand, finalement, donc dans cette émission 1954, c'est encore faut-il savoir regarder la nature. La regarder comme ça, comme vous le disiez, Claude Nivezani, tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre à hauteur d'herbe et ne pas regarder au-dessus, finalement, de la ménée, pas de la hauteur d'un homme, mais se mettre vraiment à la portée de ces petits êtres.
Oui, je pense que c'est déjà une fascination pour l'altérité. Et quel animal est autant différent de nous qu'un puceron? Et si vous commencez à le regarder avec une loupe, vaut mieux avoir une loupe quand même, ça aide. Hein. Tout d'un coup, vous vous interrogez sur quelle est sa vie quotidienne. Et vous vous rendez très bien compte qu'il a, qu'il tient à continuer à vivre. Qu'il se bat, qu'il a ses détestations, qu'il a ses plaisirs. Il y a un haïku qui dit « Du cœur de la pivoine, l'abeille s'envole, avec quel regret ?» Et vous voyez, pour nous, les haïkus japonais, les estampes d'Utamaro, etc., ont eu autant d'importance. C'est pour dire que tout est en fait une question d'équilibre. Que la lecture, effectivement, de Rostand, quel plaisir de l'entendre.
Ouais, quel plaisir.
C'est un être merveilleux.
Et puis, il y a aussi un autre être qui a compté, c'est Konrad Lorenz. Quand vous parliez qu'il faut se mettre en position, lui, il allait plonger dans son étang. Et il y avait tous les petites oies qui le suivaient, vous voyez, il faisait la même angoisse. Oui. Et même, il raconte que dans un petit papier, panier au pied de son lit, se trouvaient les petits oiseaux. Et toute la nuit, il leur donnait enfin sa main pour qu'ils puissent avoir un contact. Enfin, ça, il nous a complètement
rassurés.
Ah, mais Konrad Lorenz, un des premiers grands éthologues. Oui, hein, il a fait un travail formidable sur cette connaissance qui est la nôtre aujourd'hui des animaux. Et d'ailleurs, il avait fait aussi des émissions. Mais alors là, pour vraiment prendre la mesure aussi du pas franchi avec votre fille Microcosmos et cette façon d'en parler et de raconter, je propose de plonger dans une autre archive retrouvée par Anaïs Morales dans les fonds de l'INA. On va entendre une autre façon de faire les émissions. C'était en 1958. Lucien Chopard, entomologiste, professeur honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et c'était dans l'émission Heure de Culture Française le 12 novembre 58.
Si l'homme est un nouveau venu sur la Terre, les insectes comptent, au contraire, parmi les plus anciens animaux terrestres connus. Les plus vieux fossiles d'insectes datent du Dévonien, c'est-à-dire pour le moins de 300 millions d'années, ce qui leur donne une ancienneté égalant au moins 300 fois celle des hommes. Mais si l'on considère en outre qu'une génération humaine devance 20 ans environ, alors que beaucoup d'insectes peuvent avoir deux générations annuelles et plus, on voit que cette durée peut être pratiquement multipliée par 40 en ce qui concerne le pouvoir évolutif. La première grande invasion d'insectes se situe à l'époque carbonifère. Les grandes forêts dont les débris ont formé la houille contenaient des quantités d'insectes qui ont laissé des fossiles en grand nombre dans différents gisements dont l'un des plus riches se trouve en France, à Commentry dans l'Allier. On a trouvé à Commentry des fossiles de libellules atteignant 70 cm d'envergure. Et on peut imaginer l'extraordinaire spectacle qu'offraient ces énormes insectes planant au-dessus des marécages dans lesquels baignait la forêt houillère.
Eh oui, 1958, Lucien Chopard, donc dans l'émission Heure de Culture Française. On est là vraiment dans cette connaissance que l'on délivre sous forme de conférences. Il y a eu ces époques-là, Claude Nuridzani et Marie Pérennou, de se dire, cette connaissance, on la délivre comme une leçon donnée. Et est-ce qu'on peut dire que finalement, vous avez rompu ça? Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture du film naturaliste en France et que vous vous êtes démarqué finalement pour proposer autre chose, tout en donnant autant de savoir?
Oui, parce que je pense que ces conférences étaient très précieuses. Moi, je me souviens, j'allais aux conférences du Palais de la Découverte, j'ai entendu des très grands chercheurs, ça m'émerveillait. Donc, notre démarche est différente, mais il ne s'agit évidemment pas du tout de minimiser la valeur de cette façon de transmettre les connaissances.
Non, c'était une époque, mais...
Oui. Si vous voulez, je pense que... On est parti quand même du fait que le cinéma, c'est un spectacle. Donc... Et aussi du côté projection, immersion. Voilà. Si jamais on avait donné le nom des insectes, je pense qu'aucun spectateur à la fin du film ne s'en serait souvenu du tout. Par contre, montrer un scarabée ayant un petit ennui sur le parcours de sa boule de crottin. Et alors ça, on l'a emprunté à Jean-Henri Fabre, d'ailleurs, qui avait fait cette expérience. Oui. Vous avez un scarabée sacré qui pousse sa boule de crottin. Et à un moment, il y a une aspérité qui sort de terre, une épine, et la boule s'empale sur cette aspérité. Et on a été émerveillés de voir que cet insecte, ayant cette anicroche, réfléchit, fait le tour de la boule, monte au-dessus, regarde l'horizon, redescend, pousse de l'épaule et repousse de l'autre côté, et finit par
la décrocher.
Le lendemain... Pour des questions de cinématographie, on a voulu faire des plans de coupe. On l'a remis dans la même situation. Et au lieu de mettre une minute et demie à résoudre le problème, il a mis 4 secondes. Et cet animal doit avoir peut-être, je sais pas, quelques milliers de neurones. Comme quoi le nombre de milliards de nos neurones, c'est très bien. Oui. Mais avec très peu de neurones, déjà, vous avez une capacité de réflexion, de progression dans l'expérience qui est extrêmement impressionnante. Et aussi, ce que nous avons vu de façon très, très, très nette, c'est à quel point ils étaient individualisés. on faisait des castings d'insectes. Hein, à un moment, on voulait absolument montrer une coccinelle qui s'envole en haut d'un brin d'herbe, avec une caméra qui tournait très vite. Donc, il ne fallait pas se tromper dans le casting. Il fallait une coccinelle bien intentionnée. Oui. Il y en avait une qui s'envolait immédiatement.
Elle avait la posture, quoi.
Et en plus, elle a fait un looping au moment de partir. Eh bien, elle était la seule.
Oui.
Donc, ils ne sont pas du tout interchangeables. Vu de notre 1m80, ils sont parfaitement semblables.
Oui. Chacun a sa personnalité.
C'est très, très impressionnant, vraiment, quand on les suit dans le quotidien.
Mais alors, pour pouvoir capter ça, Marie Pérennou, ça veut dire que vous avez mis aussi en place un studio et des moyens techniques pour percevoir ça, pour pouvoir les analyser
au plus près. Oui, alors ça, c'était très important, c'est-à-dire d'être au niveau de l'image, à la hauteur de leur intérêt, de leur beauté, parce que nous, on les trouve beaux. Mais pour revenir un petit peu à ce que vous disiez sur le film naturaliste, c'est vrai que dans notre esprit, on voulait rompre avec ce genre de film, vous voyez, qui se ressemble tous un petit peu. On ne reconnaît pas vraiment un auteur différent d'un autre, sauf quelques exceptions. Et puis, on affirme des choses qui sont vraies, mais on sait en réalité très peu de choses. Donc, on affirme peu de choses. Il y avait ce côté-là aussi. Et on trouvait ces films pas toujours réussis. Et c'est pour ça qu'en réaction, on a voulu montrer leur beauté et mettre à leur service aussi le petit savoir qu'on avait, mais autrement. Donc, justement, à propos d'essayer de les rendre avec la beauté qu'ils ont, et puis toute leur bizarrie, notre bizarrie en tant qu'humain.
Oui, leur
particularité, disons. Oui. On était amené à mettre au point, des techniques de prise de vue tout à fait particulières. Enfin, il y a deux sortes de prise de vue qu'on pratique, c'est-à-dire en extérieur, où là, c'est des techniques un petit peu plus classiques, disons, bien que. Et en intérieur aussi, mais les plans tournés en studio, en intérieur, sont très importants, parce que là, on a souvent besoin, pour montrer leur vie à ces insectes tout petits, de les approcher. Mmh. Et à mesure qu'on approche, alors on a des problèmes de flou, on a des problèmes de bouger.
De lumière aussi.
Et de lumière.
Ouais, pour capter ce microcosme.
Alors,
Sans créer de la chaleur supplémentaire qui pouvait incommoder ces acteurs formidables.
Donc, il y a certaines scènes, bien sûr, dans le film, la moitié ou un, qui sont tournées en studio. Donc, on a construit un studio, pas comme un studio grand qu'avec les acteurs.
Et pas à Paris, ça reste dans la nature.
Un studio en plein champ. À côté de la maison, on a Véron, où nous vivons une partie de l'année. Et on s'est inspiré tout d'abord, parce que rester sur pied avec la caméra, c'était pas possible. C'était pas un film, ça. Il y avait pas de mouvement, c'était pas du cinéma. Donc, on a pensé au mouvement de grue, qui filme si bien les acteurs et les actrices et en gros plan aussi, mais c'était à une échelle qui nous convenait pas non plus. C'était des appareils, des objectifs beaucoup trop gros. Et la deuxième chose, faire tous les mouvements nécessaires et sans bouger. Alors là, on a construit...
Et sans vibration.
Et ça nous a demandé combien de temps, Claude, de réflexion et d'aboutissement?
2 ans, oui.
Moins de 2 ans.
18 mois, j'avais noté, relevé dans des articles. Oui. 18 mois de recherche.
Oui. Pour inventer
des matériels. Oui,
c'est ça.
Alors ça, c'était grâce à...
Une caméra
à d'autres,
spéciale.
Non, la caméra, c'était une caméra 35.
Mais tout
normal,
le système
quand même
technique était technologique qui la faisait bouger.
Surtout, tous les mouvements de déplacement.
On l'appelait
le robot.
Et en réalité, ça télécommande tous les déplacements sans aucun...
En souplesse.
La caméra est suspendue au lieu d'être sur pied, parce que ça évite les suspensions.
Oui.
Les vibrations, elle est suspendue au plafond, déjà. Oui. Et donc nous, on est derrière la caméra. Et pour commander les mouvements, là, on a comment ça s'appelait, on avait une petite souris avec une table.
En fait, c'est un ami architecte qui nous a dit, bah, dans notre métier, il y a des tables à digitaliser. On dresse nos plans sur ces grands plateaux et on a utilisé une table à digitaliser d'architecte qui a été remodifiée. Enfin, pour qu'avec cette sorte de souris, effectivement, on donne l'ordre à la caméra de se déplacer. Mais ce qui était très astucieux, qu'a pu réaliser l'équipe, c'est qu'on peut... on s'est bien douté que pour faire un travelling entre la tête et la queue et l'arrière d'une fourmi, à main levée ou même avec une souris, ça marchera pas. Donc on divisait par 100 ou par 10 le mouvement que nous faisions avec notre commande, de telle sorte que c'était remis à l'échelle de l'insecte. Et ça fonctionnait très très bien, sans aucun assistant en fait. C'était très intuitif et ça nous a vraiment sauvé la mise parce que tout d'un coup, les insectes devenaient des acteurs, des personnages. Parce que on les suivait comme avec un camion travelling ou choses comme ça. On était toujours à côté d'eux, comme fourmis parmi les fourmis, tétards, enfin non pas tétards, il n'y a pas de tétards, mais libellules parmi les libellules.
Les mouvements de cinéma,
c'est l'effet d'immersion.
C'était génial.
Donc il y avait ce côté technique et puis c'est vrai qu'aussi dans ce projet, dès le départ, il fallait convaincre en tout cas un producteur. Et pour s'engager dans un projet aussi audacieux, je vous propose de retrouver Jacques Perrin qui parle justement de ce moment, l'écriture et puis votre démarche.
Quand des auteurs que l'on croyait simplement scientifiques, mais qui étaient aussi des cinéastes, qui allaient se révéler comme des cinéastes, donc qui avaient une capacité, une âme de poète, vous présente un tel sujet, qui est la découverte du monde le plus familier, mais qui est aussi le plus inconnu, c'est une démarche originale, cinématographiquement. Donc tout ça, c'était des éléments qui composaient un projet qui n'avait pas été fait, qui était formidable, où la sensibilité acquise pendant des années par leur observation donnait lieu à un film tout à fait original.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Un film original, Microcosmos, un film qui a demandé du temps en amont, du temps pendant justement la mise en place de ce film, et puis aussi du temps, on va en parler, de montage, le tournage, etc. Mais en même temps, vous aviez écrit tous les deux un vrai scénario avec une unité de temps et de lieu, un jour dans cette campagne aveyronnaise. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait solutionner les problèmes techniques, imaginer, être inventif et pourquoi aller au plus près dans ces herbes sous nos pieds. Et en même temps, donner une histoire qui soit un conte sans commentaire.
Alors ça, effectivement, l'écriture du scénario, c'est une chose qui est, je pense, essentielle, qui est une conception, avant même le premier maître impressionné, parce que ça, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on glane le maximum de choses sur le terrain, on peut très bien le comprendre avec les lions, les girafes, on ne va pas leur donner des ordres sur ce qu'il faut faire, et après, on invente une histoire. Souvent, et c'est un petit peu la limite du procédé, elle est vraiment inventée, c'est-à-dire qu'il y a quatre girafes, mais on fait passer pour le spectateur que c'est la même, etc. Bon, nous, ce que nous avons voulu faire, et c'est assez lié au fait que nous tenions des carnets d'observation depuis des décennies.
Comme tout bon naturaliste, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'était...
Comme Jean-Henri Fabre.
Oui, c'est vrai. Mais c'était sans idée préconçue. On pouvait pas s'empêcher quand on avait vu quelque chose d'étonnant. On disait, tiens, l'autre jour, on a vu ça. Bon. Par exemple, on avait vu un jour une petite mare de 5 cm de diamètre avec des fourmis qui faisaient un cercle parfait autour. Et c'était exactement le même spectacle que les brebis sur le causse du Larzac, qui est à côté de chez nous, qui se mettent en rond autour d'une...
D'une lavogne.
D'une lavogne, voilà.
Alors l'endroit, il faut peut-être dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où elles descendent pour boire de l'eau.
Merci. Voilà. Oui, merci, je vois que vous connaissez bien.
Oui, un peu, l'Aveyron, je connais un peu.
Et ça nous avait fasciné parce qu'il y avait une sorte de rencontre de deux échelles, quoi. Oui. Et je pense que pour tout un chacun, ou même on dirait des zèbres autour d'un plan d'eau dans la steppe, eh bien... Soit on attendait de retrouver par hasard, lors du tournage, cette scène, ce qu'on aurait pu attendre peut-être plusieurs siècles, soit nous l'organisions. Donc, l'ayant vu, ayant noté tous les détails, on l'a réorganisé en studio, avec des fourmis rousses, qu'on a invitées à gagner telle pierre, etc. Nous avons mis de l'eau, on a un peu mis de sucre dans l'eau, ce qui la rendait plus intéressante pour les fourmis, et on a pu, grâce à ça, recréer exactement la scène qui subsistait dans notre mémoire.
Oui.
Plus belle que dans notre mémoire, je pense d'ailleurs, parce que là, on a pu peaufiner l'éclairage, le cadre, etc. Mmh. Et même, il y a deux fourmis qui nous ont fait l'hommage d'échanger leur ce qu'elles venaient de boire, ce qu'on appelle, on appelle ça la trophallaxie. Elles font du bouche à bouche.
Oui,
il y en a une qui a le jabot très très gonflé et l'autre qui est toute maigrichonne. Et celle qui vient de manger satisfait l'appétit de sa comparse. On souhaiterait que beaucoup d'humains fassent de même, d'ailleurs.
Donc, voilà. C'est ce que vous appelez cette contrainte naturaliste, finalement. Hein, une dialectique entre le naturaliste et les besoins de la fiction. Et donc, vous êtes entre, vous disiez aussi, hein, l'artisanat et la technologie de haut vol. Hein.
Et un troisième élément aussi, c'est l'imagination. Parce que, on ne vous a pas dit, mais nous étions aussi passionnés de cinéma. Et quand on faisait nos études de biologie là, à Jussieu, il y avait la Cinémathèque française qui était tout à fait dans le quartier. Et on était sans arrêt fourrés à la Cinémathèque. Enfin, voir tous les grands classiques et tous les derniers films aussi. Enfin, qui passait pas dans les circuits traditionnels. Et ça nous a beaucoup aidé aussi à construire notre film. C'est-à-dire, pour faire rêver le spectateur, il fallait lui présenter les choses d'une certaine façon, comme nous, en voyant ces mêmes scènes sur le terrain, ça nous faisait rêver. Il fallait pas trahir les scènes qu'on avait vues à l'œil nu.
Oui.
Mais c'était difficile à rendre, parce que comme c'est petit, une caméra normale, enfin bon, ne pouvait pas toujours le rendre, d'où le studio dont on a parlé.
Mais retrouver l'émerveillement.
Exactement.
Oui, ça me fait
donc
penser,
ça, c'est un élément sur lequel il a fallu travailler, mais ça a venu naturellement pendant le tournage. Et puis il y a tout notre passé, notre expérience.
Bien sûr, bien sûr.
Toutes nos émotions quand on était tellement joyeux ou même ému.
Oui.
Alors on disait toujours, mais ça me fait penser à ceci, cela. Mais oui. Et dans le film, on dit, il faut que ça fasse penser à autre chose du quotidien, de notre quotidien humain.
Claude Nuridzani.
Non, je pensais justement en t'écoutant à la métamorphose du moustique.
La métamorphose
du moustique, c'est une scène absolument primordiale. Surtout, il ne faut pas que les gens s'aperçoivent que c'est un moustique. Bon. Et pour nous, quand on voyait le moustique sort de l'eau, en fait, lorsqu'il se métamorphose, il y a son image, c'est son reflet parfait. Hein. Et on dirait qu'il a une longue chevelure blonde. Enfin bon. Et pour nous, c'était la naissance de Vénus. On s'est toujours dit, le moustique au moment de la métamorphose. Il faut donc le rendre. Et on a travaillé pendant plusieurs années, d'ailleurs, parce qu'il était tellement grossi qu'il y avait des micro-vibrations. Et on a reconstitué une toute petite mare en studio, avec des éclairages en contre-jour, et on a eu ce sentiment presque mythologique, quoi, d'une divinité qui sort de l'eau très lentement, comme ça, avec une sorte de mouvement très très lent. Et en t'écoutant, je pensais à ce moustique en disant
comme une nymphe. Hein.
Oui, exactement.
Il y avait ça.
Oui,
hein.
Oui,
c'est vrai que ça rend ça dans le film.
Mais juste à la fin de la séquence, on a voulu quand même révéler aux spectateurs ce que c'était. La petite bestiole. Enfin, on voit que c'est une bestiole brusquement, mais ça dure un quart de seconde. Il fait le bruit d'un moustique.
Oui, voilà. Quand il s'envole, il y en a tant. Et on vend la mèche.
En tout cas, il faut préciser qu'après les prises de vue, donc en studio, ce studio qui est quand même dans la nature, mais en studio, les acteurs ont été restitués à leur nature. Il faut dire qu'il y a eu des grands moments de récompense pour vous, hein, comme la scène d'amour des escargots, par exemple.
Ah, oui.
Oui.
Mais attendez, il y a la musique aussi, qui est tellement importante dans ce film.
Mais
la musique pour les escargots, c'était un air d'opéra chanté par
une
femme.
C'est vrai.
Donc vous voyez, il y avait un contrepoint entre la scène qu'on voyait des escargots, on ne connaît pas trop, et une musique qui nous est plus familière. Enfin, tout le monde ne connaît pas l'opéra, mais enfin quand même.
Mais quand même. Et puis
alors, les escargots, c'est vrai qu'il fallait une scène érotique quand même. Et là, on a été servi. Il a même fallu la censurer légèrement.
Calmer un petit peu la chose.
Oui. Et c'est vrai que c'est très impressionnant
c'est
de
incroyable.
Voir ces étreintes très, très langoureuses, très lentes, assez belles en même temps.
Ouais.
Hein, on a évité le côté baveux quand même. Il y a une sorte de lenteur et de perfection dans le plaisir échangé qui était vraiment impressionnante. Mais c'est vrai que la musique, là, Bruno a beaucoup beaucoup travaillé sur. Il a trouvé des vieux poèmes italiens du 19e. Et il y a une transformation quand même de cette étreinte animale en une sorte d'amour universel.
Hein. Oui, très. C'est un film qui n'a aucun commentaire, justement. La musique a sa place. Et les sons aussi. Il y a eu un gros travail sur le son.
Laurent Caglio. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, tout ce travail d'équipe a été formidablement salué.
La monteuse aussi, Marie-Joseph Fioyotte. On a travaillé dans la fébrilité. C'était une équipe formidable.
Et là, il y a eu la récompense en 1997, février 1997, remise des Césars, avec vraiment carton plein, j'ai envie de dire. On écoute une archive.
Le César est attribué à Marie-Joseph Fioyotte et Florence Ricard pour Microcosmos.
Le César est attribué à Bruno Coulet.
Voilà, pour Microcosmos, la musique de ce film.
Le César est attribué à Laurent Caglio, Philippe Barbeau et Bernard Leroux pour Microcosmos. Le César est attribué à Claude Muris-Dany, Marie Perrenou, Hugues Riffel, Thierry Machado pour Microcosmos.
Musique de Microcosmos, c'est la suite de la Marche des Sciences. Il est 16h37 et vous êtes en direct sur France Culture et en compagnie de deux réalisateurs de films, Claude Muris-Dany et Marie Perrenou, tous les deux biologistes de formation, mais réalisateurs, scénaristes, photographes, auteurs. Et c'est à eux que l'on doit le fameux film Microcosmos, 20 ans déjà, du génie à hauteur d'herbe. Et c'est un retour sur cette histoire naturaliste, scientifique, cinématographique et technologique à l'occasion du Festival de Cannes et de la semaine spéciale Science au cinéma que nous vous réservons aujourd'hui dans les émissions Science de France Culture. Alors, il y a, quand on voit ces films-là, Marie Perrenou et Claude Muris-Dany, quand on voit, que ce soit Microcosmos et puis le film que vous avez réalisé après, hein, Genesis notamment, on se dit, mais il y a un formidable outil pédagogique.
Oui, quand nous entreprenons un film, nous ne pensons pas spécialement à ça. Je veux dire, c'est un désir global de montrer, justement. De montrer qu'il y a d'autres univers que les nôtres. Hein, celui des animaux, celui des plantes aussi, tous des univers parallèles qui sont de plus en plus loin de nous. Enfin, je dirais quand même, les villes sont plus grandes, on est plus nombreux. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais on a quand même cherché à montrer à notre petite échelle une forme de beauté du monde. Je pense que c'est un moyen comme un autre d'intéresser peut-être tout le monde.
Oui, bien sûr.
À regarder autour de soi. Sans faire de voyage au bout du monde, hein. On peut aller à la campagne.
Ça, c'est vrai que c'est important. Oui. Ouais. Souvent, ouais. On pense à la phrase de Rilke, si ton quotidien te semble pauvre, ne l'accuse pas, mais accuse-toi toi-même de ne pas savoir en tirer toutes les richesses. Et c'est vrai que le quotidien de ceux qui s'intéressent aux minuscules, même en pleine ville, vous avez des touffes d'herbe. Mais si vous vous penchez avec une avec
en ce moment, il y en a plein au printemps.
C'est un univers qui s'ouvre. Vous ouvrez les portes d'un nouvel univers. Et c'est vrai que Marie parlait de la beauté. On peut parler de l'émerveillement aussi. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais vu quelques conférences sur l'astronomie et il y avait des photographies. Il y avait des photographies du ciel étoilé et c'est la beauté de ces photos qui m'ont fait dire je veux devenir astronome. Après, j'étais dans l'autre extrême. Je me suis intéressé au tout petit. Mais c'est vrai que le déclic, je pense, pour toutes ces passions qui des fois se déclenchent très tôt, c'est la beauté, la fascination.
Et c'est pour ça que je parlais de Microcosmos comme un outil pédagogique formidable à destination notamment des enseignants. Je vous propose de sur ce terrain-là d'écouter la réflexion justement de Jacques Perrin sur ce film, et je le rappelle, sans commentaire.
Le film n'a pas de commentaire. Donc les enfants regardent étonnés, émerveillés des choses qu'ils connaissaient déjà mais qu'ils n'avaient pas vues avec suffisamment peut-être d'attention. Et puis d'un seul coup, quand on voit tel et tel insecte, bien sûr, la réaction première, c'est « comment il s'appelle ?» Alors on pourrait dire, dans ce type de film, il faudrait donner tous les noms. Mais si on donnait 300 noms techniques, scientifiques dans un film, l'un bousculerait l'autre, et puis à la fin du film, on n'en saurait plus un seul. Mais en revanche, de se dire « je ne sais pas comment s'appelait cet insecte, mais à un certain moment, celui qui pousse sa petite boule, celui qui monte le haut d'une tige, et puis qui se jette dans le vide, comment s'appelle-t-il » Donc de se souvenir du comportement, de l'expression qu'avait l'insecte, et de rechercher comment il s'appelait, quand le nom vient après une recherche passionnée, le nom restera inscrit.
Claude Nuridzani, vous avez des retours comme ça, ou d'enseignants, ou dans les écoles, parce que ce film est projeté, on le sait bien, hein, face à à des classes.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on avait été très, très surpris, parce qu'on n'y avait pas pensé, à vrai dire. Au moment de la sortie de Microcosmos, il y a eu des projections pour les enseignants qui étaient remplies. Les salles étaient remplies de gens très enthousiastes. Et je pense qu'après, tout le travail leur revient. Hein. C'est comme de mettre un cristal pour déclencher la cristallisation complète d'une solution. Là, c'est un petit cristal qu'on jette, un film, ça dure 1h30. Et puis après, le professeur, il est là pour alimenter. Et bon, il a un travail énorme à faire derrière. Mais c'est vrai qu'après coup, on se rend compte qu'il y a un travail de sensibilisation, comme on dit, à la nature. C'est vrai, comme disait Marie, que les enfants vont... Les plus avantagés vont quelquefois au sport d'hiver, autrement ils vont à la mer, mais on voit pas d'animaux ni au bord, ni sur le sable de la mer, ni sur la neige des sports d'hiver.
Non, il faut rester oisif à la campagne,
à la campagne, s'ennuie, et c'est l'ennui qui tout d'un coup vous dites finalement je sais pas quoi faire, je vais regarder ce qu'il y a à mes pieds, et tout d'un coup là vous avez une révélation.
Oui, on risque pas de s'ennuyer hein, quand on regarde autour de soi, parce que même les tout petits, c'est ça qui m'avait un petit peu étonnée aussi, des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils les voient très bien, et c'est un petit peu à leur échelle peut-être aussi.
Il y a une complicité,
hein, complicité
c'est très impressionnant.
Ça les fascine au niveau des maternelles.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question aujourd'hui d'une éducation à la nature qu'il faudrait penser ou repenser ? Parce que c'est vrai que ces insectes et les animaux d'une manière générale sont des modèles pour l'homme. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent par exemple sur tel animal qui, s'il est amputé d'un de ses membres, le membre se reconstruit, en tout cas renaît. Et ce sont des perspectives formidables pour justement des hommes, des personnes, des humains amputés. Donc la recherche travaille beaucoup sur les modèles des animaux, les modèles du vivant, finalement, de la nature.
Oui, on s'y est beaucoup intéressé autrefois à ce qu'on appelle la bionique. Comment, lorsqu'on regarde comment fonctionne la nature, comment on peut en faire une application au domaine humain. Et c'est vrai que dans le domaine des insectes, ça a été très développé. Les robots hexapodes qui sont mimés donc sur l'hexapodie des insectes. L'œil de mouche a été extrêmement utilisé pour la vision synthétique. Mais je pense aussi que ce côté pédagogique, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets quand même, ça peut aussi déboucher sur la conscience de la beauté de notre environnement, de la nature, du monde sauvage.
Et de la différence avec l'autre aussi. Hein.
Oui,
l'autre est différent.
Du sens de l'altérité, oui.
Mais il est intéressant. Et...
Oui,
nous, rester cantonné dans notre soi.
Oui, une ouverture à ce qui n'est pas comme nous. Ça, c'est vrai. Oui,
parce que pour beaucoup de personnes, je comprends, enfin, les insectes, ça paraît bizarre aussi. Donc,
oui, même des insectes peuvent faire peur. Hein. Oui. Parfois, certains hésitent à prendre un scarabée dans la main, on ne sait jamais. Oui. Alors que bon, c'est vrai que quand on le fait, on ne court pas un risque majeur dans l'immédiat. Ou puis même. Est-ce que vous diriez que Microcosmos a fait des émules
au niveau du cinéma, par exemple je ne sais pas.
Nous l'espérions. Peut-être que c'est à venir, d'ailleurs. C'est vrai, vous allez peut-être nous trouver dur avec le domaine des films d'animaux, des films animaliers, mais c'est vrai qu'il y a une sorte un côté académique dans ces films qui nous posait problème lorsqu'on a commencé à faire du cinéma, d'où l'absence de commentaires pour ce premier film. Et j'ai l'impression quand même qu'il perdure un petit peu ce côté académique, mais sans doute il va y avoir de nouvelles générations qui vont un peu dynamiter tout ça. Je pense que ça ronronne un petit peu.
Il y a quand même des exemples extraordinaires, et quand même peut-être un petit peu ponctuels, mais je pense à Jeanne Goodall, qui a fait un travail extraordinaire avec son mari, bon, qui est décédé depuis, et qui était réalisateur, avec ses chimpanzés.
Mais oui.
Et c'était quelqu'un qui n'avait pas, je crois, de diplôme de scientifique, hein,
Jeanne Goodall. Non.
Mais le professeur Liquet avait bien vu qu'elle avait un sens de l'observation. Et qu'elle était très douée. Et ça pour un exemple comme ça, pour des jeunes, je trouve ça... Les chimpanzés et moi, hein, c'est son livre. Puis depuis, elle en a fait d'autres. Elle a fait d'autres films, je crois aussi.
Et elle a fait des exemples extraordinaires, de tournage et de films.
Et elle continue.
Et c'est une militante, et elle parcourt le monde.
Exactement.
On lui avait consacré un grand portrait à Jeanne Goodall.
Protéger les milieux aussi. Oui.
Exactement. Oui. Et alors, justement, ce sera ma dernière question pour tous les deux, Claude Nurezzani et Marie Pérennou. Votre façon à vous de vous engager aujourd'hui pour l'environnement, pour le devenir peut-être de la planète, pour cette nature, où il y a peut-être quelque chose en gestation d'ailleurs, hein, ou un livre, un film.
Dans le cadre de ce qu'on réalise, c'est vrai que nous n'avons jamais voulu développer le discours militant. On pense que montrer la beauté, la fascination du monde de la nature, c'est déjà, ça peut, on espère que ça peut être un déclencheur pour le respecter, le sauver, etc. Par contre, c'est vrai, sur l'état de l'environnement aujourd'hui, on est extrêmement alerté. C'est un peu accablant, là où nous en sommes arrivés. Parce que c'est quand même l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Est-ce qu'on arrivera à s'en sortir? Écoutez, on l'espère. Je pense qu'il faut se réveiller. Je pense pas qu'il faut tellement compter sur les politiques pour nous sortir de cette ornière, mais c'est aux citoyens, je pense, de remuer. Nous, on collabore de façon très modeste à différents mouvements qu'on trouve vraiment très utiles et qu'il faut absolument développer. Mais je pense que c'est vraiment un problème des citoyens. Je crois qu'il faut que chacun prenne sa part dans cette prise de conscience.
Merci à tous les deux, et je rappellerai cette phrase que vous avez prononcée, Claude Nurezzani. Si ton quotidien te semble terne, accuse-toi toi-même. En tout cas, je renvoie nos auditeurs à Microcosmos, hein. Bon anniversaire en film, il existe en DVD, et puis à vos livres que l'on trouvera sur le site de l'émission. Je rappelle aussi que ce week-end, c'est la fête de la nature, et que vous pouvez aussi investir des lieux dédiés partout en France à la nature, et notamment au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, par exemple, qui fêtera aussi les 10 ans de l'opération Papillon de Vigie Nature. Et donc voilà, il ne faut pas oublier tout ça. Mais vous restez avec nous, parce que la suite va vous intéresser. Autre festival de films de chercheurs.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Ce seconde partie actualité des sciences et de leur histoire avec pour cette semaine spéciale Science au cinéma, un festival qui se déroule tous les deux ans à Vendeuvre-les-Nancy en Lorraine et qui propose pour sa 17e édition 11 films en compétition. Il s'agit du festival du film de chercheurs qui se déroulera du 31 mai au 5 juin prochain. Extrait.
Ok, donc c'est toi qui vas me guider là pour me rapprocher de la corniche.
Ok. Là, il reste à peu près 2 mètres derrière toi et tu es au nord de l'écaille.
Depuis 2007, on travaille dans le sud du Vercors, sur le lieu-dit de Chamoussé. Et là-bas, on étudie les bruits émis par les roches, par les falaises, roches de l'éboulement.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand et comment ça va casser.
Ce qu'on appelle la fréquence de résonance, c'est la note que va jouer un objet lorsqu'on le fait vibrer naturellement. Cette écaille, elle oscille naturellement, et cette oscillation, c'est une note. Cette note, lorsqu'elle va baisser, on pense que c'est un signal, l'éboulement est sur le point de se produire.
Une route, c'est toujours facile à fermer, le problème, c'est quand il faut la rouvrir. C'est là qu'il faut avoir le bon feeling. Pour dire « Ok, on peut la rouvrir parce qu'il n'y a plus de mouvement ou bien parce qu'une partie est tombée et qu'il n'y a rien qui peut suivre derrière. »
Voilà, c'était l'extrait du film Chamoussé, Le Chant des Pierres de Éric Larose, réalisé par Olivier Alexandre et donc un des 11 films en compétition. Bonjour Jacqueline Ries. Alors vous êtes en duplex de nos studios de Radio France à Nancy et vous êtes secrétaire général de ce festival du film de chercheurs. Rappelez-nous peut-être quand même le principe. C'est un festival qui a été créé donc en 1996 à l'initiative du CNRS et qui a pour objectif donc de mettre vraiment en valeur ce travail du chercheur, le scientifique en action, c'est ça ?
Oui, en fait c'est un festival donc qui a 20 ans. Qui au départ a été créé par le CNRS et l'Université de Lorraine a rejoint ce festival il y a quelques années. Donc on présente des films qui sont, on va dire, faits par des chercheurs. En tout cas, ils ne sont pas forcément réalisés par des chercheurs, quoique des fois ils peuvent l'être, notamment dans les films qui traitent d'ethnologie ou d'anthropologie. Mais on a des chercheurs qui sont très impliqués dans la réalisation des films, qui sont des auteurs et on va suivre des travaux de recherche un petit peu au quotidien. Donc cette année, on a 11 films en compétition qui vont, entre autres, pour faire suite à ce que vous disiez tout à l'heure sur la thématique microcosmos, oui. Parler d'environnement.
Et alors, 11 films sur 115 reçus, et ce qui montre la richesse justement de ce quotidien de la recherche et de ces films. Alors, choisis par qui finalement les films ?
Alors, ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, on constitue un petit groupe. Un grand groupe, à peu près entre 20 et 25 personnes, participent à la présélection des films. Donc, dans ce groupe, il y a des chercheurs et il y a aussi des médiateurs scientifiques et puis des réalisateurs. Donc, ensemble, on va définir choisir les 11 films qui vont aller en compétition sur des critères, notamment sur l'implication des chercheurs dans les films.
Alors, il y a un thème. Alors, depuis quelque temps, le festival a lieu tous les deux ans, donc faut pas le rater, surtout cette année, avec un joli thème en plus à la clé, l'alimentation. Donc, à voir et à manger, c'est le titre du festival, parce que 2016, c'est l'année internationale des légumineuses. Et donc, cette question que vous allez poser, alors à travers les projections et puis des débats, comment bien manger ?
Oui, en fait, en journée, on passe les films qui sont en compétition, et en soirée, on passe des films sur la thématique de l'alimentation. Donc sur l'alimentation, on va le traiter sous différents angles. On va traiter l'alimentation d'un point de vue santé. On va avoir une soirée sur la question du sucre, du gras. On va avoir aussi une soirée sur la question de nos habitudes alimentaires, particulièrement les Français. On ira de surprise en surprise, parce qu'en fait, on apprend qu'on a des idées un petit peu toutes faites sur nos habitudes actuelles. On a le sentiment que on a un peu calqué nos habitudes sur les Américains notamment, et en fait on est loin de tout ça. On a bien gardé des habitudes alimentaires en France, notamment d'être autour d'une table, d'inviter des gens, de passer du temps à table. On passe aujourd'hui plus de temps à table qu'il y a 20 ans.
Oui, il y a donc, cette culture encore du repas partagé.
Voilà, donc on va passer des films aussi sur le goût, le dégoût, sur l'histoire de la gastronomie, enfin voilà, c'est assez riche et vraiment tout public.
Donc ça, c'est proposé, comme vous le disiez, à un moment dans ce festival. Et puis, il y a ces films en compétition qui sont pas forcément justement sur le thème de l'alimentation, mais pour rejoindre Microcosmos, certains sur le thème notamment de la nature, de cet environnement. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit peu une description rapide, aller nous allécher, qu'est-ce que vous allez proposer dans cette sélection?
Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur les 11 films qu'on va présenter, on est presque sur du film d'aventure. Parce qu'en fait, un chercheur qui fait un film, il va présenter une sorte d'aventure. Donc, ça peut être une aventure géographique. On a des films qui vont se passer aussi bien en Sibérie. Il y a d'autres films qui vont se passer au Vanuatu. On a des films qui se, on a un film qui se passe au Maroc. On a vu que le film que vous avez présenté se passe dans le Vercors. Il y en a un autre qui suit le fleuve.
Le Rhône.
Le Rhône. Qui est vraiment une grande surprise aussi, hein. On découvre énormément de choses. Donc, chaque film est en même temps une aventure, en même temps la quête d'un chercheur. Et en même temps aussi des rencontres avec des habitants, des citoyens, des usagers. C'est très fort dans les films qu'on a cette année, les films qui traitent notamment de l'environnement avec des biologistes, des hydrologues, etc. Il y a un lien très très fort entre eux. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Alors bon, en même temps, c'est les réalisateurs, hein, c'est les chercheurs, hein, qui ils sont pas représentatifs de tous les chercheurs. Voilà. Mais on sent qu'il y a vraiment un partage du travail. Il y a des films qui le montrent extrêmement bien cette année. On voit qu'il y a un travail commun, un partage entre les chercheurs et les habitants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup et certainement qui a été un des critères de choix des films qui sont présentés cette année, sans qu'on s'en rende compte.
Oui, ce sont vraiment des films grand public en tout cas. C'est cette science mise à la portée de tout le monde. Est-ce que vous diriez que finalement vous êtes aussi dans cette sélection ou dans les films qui vous arrivent, hein? Il y en avait 115 quand même à la base. Mm-hmm. Est-ce que vous repérez des genres différents, des écritures peut-être de films qui cherchent à faire autrement justement? À se démarquer peut-être, mais pour mieux toucher, comme là on venait de parler de Microcosmos avec sans commentaire et qui véritablement a fait un vrai travail final pédagogique sans le vouloir au début.
Oui, je pense qu'on a eu des films qu'on n'a pas sélectionnés aussi, mais on voit bien que c'est un petit peu ça qui est derrière tous les films. Il y a une idée d'aventure. Il y a vraiment le chercheur. Suit un chemin, à une quête, à une intuition, à une démarche, ce qui est la démarche scientifique évidemment, mais elle peut s'apparenter aussi bien à l'aventure que des fois à la recherche policière, enfin à l'enquête policière. Donc on est dans une presque des fois dans des road movies comme ça, des choses qu'on suit. Et il y a une narration qui est beaucoup plus aboutie aujourd'hui dans les films qu'on a cette année que ceux qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et vraiment, un travail vraiment assez fin sur la manière de raconter, sur la manière de créer du suspense. Je dirais pas la fin du film que vous avez passé tout à l'heure, mais on se demande jusqu'au bout s'ils vont y arriver. Et ça, on l'a pratiquement dans tous les films, ce côté un petit peu suspense. Donc oui, il y a une vraie écriture maintenant des films scientifiques et des films faits par des chercheurs. Et une volonté de parler au grand public, parce qu'en fait, c'est pas la peine de faire un film s'il n'est pas compris. Donc en fait, ce sont des films qui sont écrits pour être compris par tout le monde. Et qui sont accompagnés, puisque tous les chercheurs des films seront présents à Nancy. Donc, dans 15 jours.
Et bien voilà, donc des soirées projections, des rencontres, des débats, des ateliers scientifiques, des ateliers scolaires, des concours, hein, le concours des chercheurs en herbe, des expositions, un jury composé de réalisateurs, de chercheurs, de producteurs, de journalistes, et donc et des prix. Alors notamment rapidement, Jacqueline Ries, donc celui du film le film de chercheur, et puis le coup de pouce.
Oui, alors le premier prix c'est 6 000 euros, donc voilà, ça permet à un chercheur, c'est le chercheur qui reçoit le prix, de commencer à réfléchir à un deuxième film ou à un autre film. Oui. Et puis le deuxième prix coup de pouce est un prix de 3 000 euros.
Et puis d'autres, hein. Il y a le concours film et la recherche, on pourra pas tout dire aujourd'hui, Jacqueline Ries, avec vous. Le concours pour les scolaires à suivre à partir de la maternelle et remise de prix le vendredi 3 juin 2016 à 12h30. Et puis toute l'année aussi, hein, des projections de films en Lorraine. Merci à vous. Et donc je rappelle pour nos auditeurs le Festival du film de chercheurs du 31 mai au 5 juin à Vendeuvre-les-Nancy, dans le Grand Nancy. Voilà, il y a un gros travail avec la population aussi, c'est formidable. 17e édition, 11 films en compétition et tous les liens, toutes les infos à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Et vous pouvez aussi podcaster, télécharger, réécouter l'émission, nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et c'est la fin de la Marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Edouard Rubinstein, et je salue l'équipe de Radio France Nancy. Et la semaine prochaine, eh bien, nous nous mettrons dans les épreuves du bac. Émission spéciale bac sciences de la vie de la Terre, SVT. Notre thème, enjeux planétaires, les dessous de la géothermie. Et nous serons justement avec le spécialiste chercheur scientifique Claude Jopard, et puis avec la professeure de SVT Annie-Claire Abuaf et ses élèves de Terminale S du lycée Marie Curie de Sceaux pour s'emparer d'un sujet et proposer une correction. Demain, autre rendez-vous Culture Science Anne Parapté à 16h, Michel Albergantier, Sciences Publiques, qui vous parlera de l'apocalypse. Pourquoi l'apocalypse fascine-t-elle tant le cinéma? Et dans un instant, à 17h, le 5 à 7, avec des documentaires, du débat et Hervé Gardette.